Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez les Summer Sessions du Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et tout l'été, même au mois d'août, on vous embarque dans notre tournée des plages avec un épisode à écouter chaque semaine, les pieds dans l'eau. Et oui les amis, c'est le mois d'août et ben on est encore là. On est encore là et on compte pas vous lâcher. Hein. On vous a dit on serait là tout l'été, donc mettez de la crème solaire. N'oubliez pas de vous hydrater parce qu'on arrive avec les infos social media de la semaine.
Ouais, et puis là, en pleine semaine du 15 août, alors bonjour Thibaut déjà, je te dis
oui,
même plus bonjour.
Bonjour,
on avance dans l'été, on est en vacances, on a plein d'affaires, on se dit même pas bonjour, on se présente plus. Voilà, c'est la semaine du 15 août, là normalement tout le monde est en vacances. Quoi. Il y a vraiment plus que nous qui sommes derrière des micros, tout le monde est en vacances.
Ouais, donc peut-être que vous nous écoutez dans un bouchon d'ailleurs,
c'est possible.
Donc on pense à vous et pensez à nous qui sommes actuellement à Lyon, il fait bien chaud. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Peut-être.
Commence, vas-y, Thibaut, vas-y.
Eh ben, on va parler de fake influenceurs. Les fake influenceurs, tu sais, le phénomène des fake influenceurs. Je parle vraiment de phénomène. C'est déjà bien identifié comme principe. Hein. Eh ben, ils continuent à pulluler sur les réseaux et notamment sur Instagram, évidemment. Et en fait, ils commencent à coûter sérieusement cher aux marques. C'est même elles les premières touchées par ce fléau des temps modernes. Hein. Carrément, j'utilise des gros mots. Mais il y a une récente étude qui a été menée par la société de cybersécurité Check, CHEQ, et l'université de Baltimore, qui nous apprend que ce sont près de 1,3 milliard de dollars qui sont partis en fumée pour des faux comptes, des faux compteurs de likes et des faux followers. Donc c'est quand même assez impressionnant ce que ça représente. On peut vraiment parler de fléau, tu vois.
Bon, bah bien joué les gars, les escrocs là, ils se sont bien sortis. Hein, ils ont dû prendre un peu d'argent.
Ouais, et ça c'est un professeur en économie qui a mené cette étude, qui est à la tête de cette étude. Il s'appelle Roberto Cavazos. Ah. Et il a interrogé 800 marques et il a pu découvrir que sur ces 800 marques, eh bien, il y en avait deux tiers d'entre elles qui avaient déjà collaboré avec des influenceurs frauduleux qui étaient notamment passés par des achats de faux likes, de faux commentaires, de faux abonnés, etc. Et puis il a analysé aussi le profil de 10 000 influenceurs et il a découvert que sur 10 000 influenceurs de base, hein, 25% des abonnés de ces comptes eh bien, étaient en réalité des faux comptes. Et donc il part d'un postulat que c'est que 50% des posts sponsorisés, eh ben, concrètement, c'est de la merde et que le taux d'engagement est biaisé. Ça fait quand même très très mal de ce côté-là.
Ouais, alors c'est quelque chose qu'on a déjà pas mal, qu'on a un peu traité dans le Super Daily, on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des moyens pour les marques de se prémunir face à ce problème-là. Effectivement, c'est un milieu, l'influence marketing, les influenceurs, qui est en train de se professionnaliser. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de personnes qui profitent du fait qu'il y ait peu de connaissances sur le sujet chez certaines marques ou de moyens d'arriver à détecter ce type de faux influenceurs pour justement, avec des faux likes...
Pour gruger, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, l'étude, elle est assez intéressante parce qu'il constate aussi que certains influenceurs eh ben, créent des faux contenus sponsorisés maintenant hein, dans le but de duper les marques. C'est-à-dire que en fait, ils vont choper un deal d'influence marketing et puis pour ne pas revenir complètement les poches, les mains vides, eh ben, ils vont mettre des billes pour le sponsoriser en dark post ou même tout simplement via le business manager et faire grimper le compteur et dire ah, « Vous voyez, on a fait du like, donc la prochaine fois, mettez plus de budget ou invitez-moi aux Bahamas. » Voilà.
Ouais, bah, c'est pas étonnant. Et alors là, du côté des marques aussi, tout simplement, n'hésitez pas à faire confiance à des agences spécialisées hein, pour essayer d'avoir les bons influenceurs pour votre marque. Tous les influenceurs ne sont pas bons pour vous, en plus, qu'ils soient fake ou pas, déjà. Donc, choisir un influenceur, il faut déjà savoir ce qu'on veut vendre, qui on veut toucher, etc. Et puis après, y a des agences d'influence marketing, y a des agences social media comme nous qui étudions ça de près et qui pouvons aussi aider ces marques-là à faire le bon choix quand ils doivent choisir un influenceur.
Hashtag séquence pub. Bien joué, monsieur Chélil. Juste pour finir sur ce point-là. D'ailleurs, en Californie, il y a un mec qui a pété les plombs totalement sur l'influence marketing. C'est un marchand de glace. Il s'appelle Joe Nicky. Il est le patron d'une boîte qui s'appelle CVT Soft Serve. Donc, c'est l'espèce de food truck de glace, quoi. D'accord. C'est comme ça, c'est un camion de glace, quoi, ouais, comme ça se fait bien glace, aux États-Unis. Et lui, il a décidé qu'il allait faire payer double les influenceurs. Il a balancé un post sur Insta. Il a dit maintenant les influenceurs payent double. En gros, il en avait marre que les mecs déboulaient en disant si je prends une photo, je la balance sur Insta, c'est gratuit ou voilà.
Ouais, bah ça c'est connu. Hein. Les influenceurs food, par exemple, qui vont voir des mecs qui leur disent ouais, mine de rien, ils viennent manger dans le resto, puis en disant oh, mine de rien, en fait, moi, j'ai 15 000 abonnés là sur Instagram, donc peut-être que je pourrais faire une petite photo du plat, ou alors qu'ils vont dans un hôtel en vacances et qu'ils vont dire bah bonjour, moi je suis telle personne, en fait j'ai tel compte Instagram, j'ai réservé une semaine chez vous en août, peut-être qu'on peut s'arranger, ouais. Moyennant une photo ou deux.
Mais même là, je te jure que c'est vrai, hein. L'autre jour au Bagel, alors il sait de quel Bagel je parle parce que c'est un magasin de Bagel juste à côté de chez nous, je te garantis qu'une fille a grugé toute la queue et n'a pas payé son menu juste parce qu'elle est allée discuter avec la patronne en disant je suis influenceuse Instagram, voilà. Donc,
ça a marché
ça a marché, ouais, elle a pas payé, voilà.
Je il faut que j'essaye, plus. Il faut que j'essaye,
essaye genre, avec, ouais. Arrive avec le super délit
Bagel, bagel gratuit tout le mois d'août. Et ben moi, je vais vous parler maintenant de Snapchat. Et oui, Snapchat, un réseau que moi j'apprécie plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il est un petit peu en retrait par rapport à ses grands frères du groupe Facebook, Instagram.
Tu sais que t'es le seul de plus de 30 ans hein, sur.
Je suis le seul dessus, oui. Je suis le seul de plus de 30 ans dessus. Merci de rappeler que j'ai plus de 30 ans, Thibaut. Couteau dans le dos. Et ben après avoir changé de design hein, en 2017, Snapchat a eu une année 2018 un peu compliquée, on le sait, avec une progression assez moyenne, avec peu de revenus aussi, peu de croissance. La plateforme avait même perdu un des utilisateurs à un moment donné. Mais là, la plateforme a sorti cet été son bilan du deuxième trimestre 2019. Et là, les chiffres sont vraiment repartis à la hausse. C'est ultra positif pour eux, c'est simple. Sur ces trois mois, Snapchat a gagné 13 millions d'utilisateurs quotidiens en plus. Donc, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs quotidiens sur Snapchat qu'actuellement. Ils en dénombrent 203 millions. Donc, 203 millions de personnes qui, tous les jours, vont sur Snapchat. C'est le record pour la plateforme, tout simplement. La plateforme a eu une faible croissance depuis 2017 et du coup, bah là, Snapchat dépasse les prévisions initiales hein, puisqu'ils avaient prévu pour ce bilan trimestriel 191 millions d'utilisateurs quotidiens. Pour eux, c'était ça l'objectif à atteindre et ils sont donc bien plus haut puisqu'ils sont à 203 millions. Donc déjà, bravo Snapchat sur ce niveau-là. On sait qu'il y a différentes choses qui ont pu provoquer ça. Notamment le gender swap, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un filtre qui permet de passer homme si t'es femme, femme si t'es homme. En tout cas, ça a cartonné et on sait qu'il y a beaucoup de téléchargements de l'application qui ont eu lieu suite à la création de ce filtre-là. Donc, les filtres Snapchat sont toujours un peu en avance sur le reste des autres plateformes et là, ça, pour une fois, ça a payé en termes de téléchargement pur d'utilisateurs. Il y a aussi des nouveaux revenus publicitaires hein, sur la plateforme avec les fameuses publicités de 6 secondes que les utilisateurs ne peuvent pas passer qui ont amené un nouveau revenu à Snapchat et sur la réalité augmentée aussi puisque maintenant la réalité augmentée elle est directement sponsorisée. Donc du coup, les revenus de la compagnie Snapchat Inc. se portent super bien. L'action Snapchat a pris une hausse de 12%, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et le chiffre d'affaires de Snapchat s'élève aujourd'hui à 388 millions de dollars. Donc, l'application et la plateforme se portent bien et on a hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Est-ce que c'est vraiment enfin une plateforme sur laquelle on va pouvoir compter pour développer des vraies communautés de marques dessus ?
Ça va peut-être nous obliger à parler plus souvent de Snapchat dans le
Super Daily. Ça serait pas plus mal.
Hein, ça se trouve. Allez, plus sérieusement maintenant, parce que tu vois, on va arrêter avec ces trucs de gamins. On va parler droit et on va parler même droit voisin, puisque la France adopte le droit voisin. Qu'est-ce que c'est exactement ? Je vais vous expliquer. C'est une grosse annonce. Hein. C'est le Parlement français qui a adopté un droit voisin pour les éditeurs et agences de presse. Le principe de ce droit voisin, j'aime bien le mot, c'est que les plus grands acteurs du numérique, hein, Google, Facebook, etc., vont devoir rémunérer les éditeurs de presse lorsqu'ils partagent leurs articles, notamment par exemple dans Google News, tu vois, le fameux Google News où d'accord, tu peux lire quasiment tout l'article ou au moins le début de l'article. Ça faisait un moment que les éditeurs se battaient sur ce sujet. Ils en sont passés par l'Europe et l'Europe a décidé que maintenant il y allait avoir un droit voisin qui s'appliquait, c'est-à-dire si Google utilise du contenu qu'il ne produit pas lui-même, il va devoir rémunérer les éditeurs de ce contenu.
Oui, parce que si on peut revenir juste une seconde sur cette histoire, par exemple pour la presse, Google répertoriait jusqu'à maintenant les articles de presse en mettant le lien des sites et juste une ligne ou deux de résumé de l'article pour savoir si ça nous intéresse, pour cliquer après et entrer sur le site du Monde ou de Libération ou de n'importe quel journal. Aujourd'hui, on peut lire quasiment, comme tu disais, l'entièreté de l'article sur Google directement, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller sur le site mère. Et là, ça pose une vraie question pour la pub, par exemple, sur ces sites-là, parce que ça leur fait moins de visites journalières, donc forcément des revenus de publicitaires qui sont en baisse.
Ouais, et à ce titre, on parle quand même d'une perte de entre 250 et 320 millions d'euros de pertes par an pour la presse en droit publicitaire du fait de ces pratiques. Donc c'est quand même impressionnant.
C'est énorme.
Pour rappel, l'instauration de ce droit voisin, ça reprend les prérogatives de l'article 15 de la directive européenne sur les droits d'auteur. La France est le premier pays de l'UE à appliquer cette directive européenne. Ça vient d'être signé. Il y a beaucoup de groupements d'éditeurs maintenant qui craignent que cette législation elle profite en premier lieu aux gros éditeurs, évidemment, parce qu'on va en passer par des négociations, et des négociations qui risquent d'être sacrément musclées avec Google notamment, parce que Google avait déjà sévèrement riposté dans un cas assez similaire en Espagne, il y a quelque temps de ça, le gouvernement souhaitait en tout cas faire payer une taxe sur le partage des articles. Mmh. Google avait été assez simple et rudimentaire. Ils avaient tout simplement dégagé Google News en Espagne et dit bon, si c'est ça, nous on arrête. Donc c'est une forme de négo.
Pourquoi pas.
Voilà. Et du coup, moi, ça m'ouvre une discussion plus vaste, peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on aura peut-être une prochaine fois. C'est que si le droit voisin est applicable à des éditeurs de type presse, dans quelle mesure il ne peut pas être applicable à tout le monde ? Je m'explique. Quand le moteur de recherche maintenant te sort des réponses immédiatement en piquant du contenu sur ton site ou sur ton podcast ou sur... Dans quelle mesure le contenu qui remonte, c'est pas... tu partages pas un certain nombre de droits là-dessus, et dans quelle mesure Google, qui tire des revenus de ton contenu, ne devrait pas t'en reverser une partie.
Oui, par exemple, là, l'exemple que tu donnes, c'est je vais chercher dans la barre de recherche Google... quelle est la taille du coffre d'une Clio ? Et Google lui va me donner la réponse directement. Le coffre d'une Clio fait de telle taille à telle taille, sans que j'ai besoin d'aller sur un site en particulier. Mais ce n'est pas Google qui a créé cette réponse-là, vraiment. Google, il est allé, grâce à son intelligence artificielle, il est allé chercher la réponse dans un article ou un site, et il me l'a remis directement sur la page Google, ce qui fait que je n'ai pas besoin d'aller consulter un site et que je consulte que Google.
Exactement.
Donc ça va être c'est un débat intéressant, c'est un débat vachement intéressant, je trouve.
Et voilà, autre sujet, cette fois-ci un petit peu moins touffu, on n'est plus dans le légal, quoique, parce que tu sais que selon, tu me fais signe, tu voulais me dire quelque chose ?
Ah non, mais si non. Tu changes de sujet, j'avais un sujet moi aussi.
T'as un sujet, vas-y, je te laisse parler.
Non, tu me coupes la chic comme ça, Thibaut, c'est pas parce que c'est les vacances.
Vas-y, je t'en prie.
Non, moi c'est le bad buzz de l'été un peu là, c'est Messenger Kids. Alors je sais pas si vous connaissez Messenger Kids. Mais peut-être que vous laissez vos enfants aller sur les réseaux sociaux directement, mais si vous voulez avoir un peu plus de contrôle, vous pouvez les autoriser à aller seulement sur des réseaux pour les enfants comme Messenger Kids. Ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité en tout cas de donner accès à ses enfants à une messagerie tout en contrôlant toutes les personnes qui peuvent rentrer en contact avec votre enfant sur cette messagerie. Le principe, c'est que c'est vous qui autorisez ou non un utilisateur à parler, à échanger, et vous pouvez comme ça contrôler tous les interlocuteurs avec qui peuvent parler vos enfants.
Ouais, malheureusement. Sur le principe, c'est bien.
Oui, sur le principe, on se dit très cool. Ça permet, par exemple, je vous donne un exemple bête, ça permet, vous avez envie que votre enfant puisse communiquer avec ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousines, la famille, etc. Directement depuis une messagerie, parce qu'il est assez grand pour utiliser une messagerie, mais vous n'avez pas envie qu'il soit confronté à des gens qu'il ne connaisse pas. Vous pouvez lui installer Messenger Kids, tout le monde peut lui parler grâce à cette application, mais aucun autre interlocuteur extérieur peut rentrer en communication avec lui. Donc plutôt malin de la part de Facebook, plutôt malin, sauf qu'il y a eu une petite faille dans le système, effectivement. Cette demande d'autorisation auprès des parents a pu être contournée par parfois, malheureusement aussi, peut-être des personnes malveillantes. C'était un peu trop simple jusque-là. Donc, si votre enfant en fait participait par exemple à une conversation groupée, vous savez, à plusieurs, avec plusieurs interlocuteurs, quelqu'un que vous n'aviez vous pas forcément autorisé à entrer en contact avec votre enfant pouvait être invité dans cette conversation groupée et échanger librement avec cet enfant. Donc là, du coup, on saute complètement l'autorisation parentale, ce qui veut dire que, par exemple, votre enfant, vous avez autorisé son cousin de Bretagne à discuter avec lui, Et lui, son cousin de Bretagne, il a 15 ans ou il a 16 ans, il fait pas gaffe, il invite des potes dans une conversation avec votre enfant qui a peut-être lui que 8 ou 9 ans. Il se retrouve au milieu d'une conversation avec une dizaine d'ados et les ados peuvent lui parler librement et sans que vous, vous soyez au courant. Donc, un peu le bad buzz quand même, hein, parce que si c'est...
Ils n'avaient pas pensé à ça, les cons.
Non, ils n'avaient pas pensé à vrai. Ça. Okay. Donc, si c'est que ça, à la limite, ce n'est pas très grave, mais on imagine qu'il peut se passer des choses plus graves quand il s'agit d'enfants comme ça, libres sur Internet. Donc, Messenger a tout de suite décidé de supprimer carrément les conversations groupées. Donc, vous ne pouvez plus maintenant sur Messenger Kids accéder à des conversations groupées. Et puis, a prévenu, heureusement, les parents qui utilisaient ça avec leurs enfants. Donc, normalement, maintenant, tout est bon. Enfin bon, normalement.
Ouais, bah, je peux te dire que ma fille, elle n'est pas prête d'être sur Messenger Kids, ça c'est clair que non. Autre
ouais, vas-y.
Autre sujet, oui, donc je disais, on était dans le légal. Moi, j'étais dans le légal. Je vais le rester en rappelant les règles d'Instagram. Tu sais, sur Instagram, les contenus violents, nus, partiellement nus, attention, c'est important, discriminatoires, illégaux, haineux, pornographiques, etc., sont interdits, c'est la base. Donc, en gros, si vous voulez voir des nichons, allez plutôt à la plage, hein, comme vous êtes en train de le faire en ce beau mois d'août, plutôt que sur Instagram, parce que c'est concrètement interdit de balancer des tétons sur Instagram. Et j'en reviens à mon combat, c'est mon combat de l'année, les tétons sur Instagram, parce que ce qu'il y a de paradoxal, c'est que le sein masculin, le
oui,
téton d'homme.
Pas n'importe quel téton.
Le sein masculin, lui, ne pose aucun problème.
On peut s'exhiber torse nu tranquillement sur les réseaux.
C'est quand même effarant, je trouve, en 2019, d'entendre encore ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tétons d'hommes, mais on ne peut pas avoir de tétons de femmes sur Facebook ni sur Instagram. Et sur Instagram, particulièrement, c'est impressionnant. C'est-à-dire que concrètement, si tu tentes ta chance, eh ben, ton contenu a des chances de se faire dégager assez rapidement.
Et d'ailleurs, on a vu des comptes comme, par exemple, Violente Viande, hein, dont on a déjà parlé ici, qui contournait ça par exemple avec des t-shirts mouillés ou avec des petites subtilités comme ça. Alors moi je suis quand même très très curieux de savoir comment l'intelligence artificielle d'Instagram arrive à détecter le téton d'un homme ou d'une femme. Je veux dire, si c'est une femme qui a une poitrine généreuse, peut-être que c'est plus simple pour lui, mais par exemple une femme qui aurait des tout petits seins comparé à un homme qui aurait des énormes pectoraux graisseux, je sais pas comment il arrive à vraiment différencier aussi facilement
ils ont développé une Instagram à l'image du groupe Facebook, c'est assez pudibonde, un peu wasp, et donc ils détectent assez bien ce truc là je pense,
ah, ça
hein. Et bien justement il y en a qui tâchent de trouver une réponse, hein. On en parle fréquemment, hein, de ces petits malin, ouais, qui essaye de trouver des manières de faire. Eh bien, il y a ce compte que je te conseille d'aller voir qui s'appelle @taboob_official. Bah oui, Taboob, comme tabou et boobs, forcément. Et Taboob, c'est un compte Instagram qui a été créé par deux Belges. Il s'appelle Jasper Declerc et Nourty Palmers. Et il met à l'honneur la poitrine féminine en se jouant de la censure. Je trouve ça très rigolo ce qu'ils ont fait parce que, eh bien, ils ont eu l'idée de transformer des poitrines féminines en œuvres d'art en les décorant. Concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils les recouvrent de pas mal de choses différentes, de bonbons, de ficelles, de raquettes, etc. Ils essayent de brouiller les pistes de... je te vois en train de chercher.
Ouais, répète-moi le nom exact.
Taboob, T-A-B-O-O-B _ official.
D'accord.
Et donc, ils rusent en fait, tout simplement, ils essayent de gruger l'intelligence artificielle en planquant concrètement des tétons derrière des créations artistiques. Et les créations sont très belles, elles sont très créatives, c'est très coloré, c'est très joli à voir, c'est bien fait, c'est pas, évidemment pas du tout vulgaire. Et c'est assez marrant et c'est une bonne manière de dénoncer ce qui se passe et le côté absurde d'Instagram. À noter aussi évidemment que c'est une œuvre sans doute éphémère, elle est à découvrir rapidement. Peut-être c'est pour ça que tu ne la trouves pas, parce qu'elle est peut-être déjà crachée.
Instagram l'a peut-être déjà eu, j'arrive pas à trouver, ça vient peut-être.
Une œuvre éphémère à découvrir rapidement avant qu'Instagram ne s'en rende compte, parce que le jour où ils s'en rendent compte, cette page va dégager. Évidemment, le lien direct vers ce compte Instagram est en note de cet épisode. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil.
Cool. Bon, j'essaierai d'aller retrouver ça. Là, j'ai pas réussi à le trouver, mais je vais essayer d'aller retrouver ça. On sait que c'est un vrai tabou. On a déjà parlé aussi dans un épisode. On parlait de sexualité sur Instagram. Et donc, allez l'écouter si ce sujet-là vous intéresse. On avait un petit peu approfondi ce sujet-là, justement, sur la manière dont on abordait la sexualité, et notamment aussi féminine sur Insta. C'était vachement intéressant.
On espère que vous passez un très agréable mois d'août. C'est un plaisir d'être avec vous aussi. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Summer Sessions du Super Daily.
Et d'ici continuez à pas hésiter à nous envoyer vos photos de vacances sur Insta.
Oui, s'il vous plaît. Merci. @supernative sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Pourquoi pas, tiens, des photos de vacances sur LinkedIn, ça marche aussi. Alors, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. On vous souhaite un très bel été, les amis.
Ciao, ciao.
Salut.